Galhistoire, l'application qui fait adorer l'histoire. Avec l'application Galhistoire, écoutez et regardez des centaines d'histoires à l'infini. Retrouvez tous les personnages Galhistoire, la série Mythes et Légendes et des nouveautés chaque mois. Vous pensez que vos enfants en sauront plus que vous sur l'histoire de France ou sur la mythologie égyptienne? Eh bien, vous avez raison. Alors, prêt à les faire voyager dans le temps? Essayez dès maintenant l'application Galhistoire à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la classe 2. Avec Dans la classe 2, vous allez avoir la chance d'assister à une discussion entre des enfants de votre âge et un personnage historique. Marie Curie, Napoléon ou encore Nefertiti. Écoutez ces figures de l'histoire vous raconter les événements marquants de leur vie et surtout répondre aux questions de leur jeune public. Prêt ? Alors, en avant pour découvrir Dans la classe 2...
Olympe de Gouges.
Pourquoi ce serait vous qui porteriez le grand livre d'histoire?
Bah, parce qu'on est des garçons, hein.
Et alors?
Bah, on est plus costauds, plus forts. Du coup, c'est plus facile pour nous.
Parce que tu crois vraiment qu'on n'est pas capable de porter un livre jusqu'au bureau du maître, toi?
Hop. Arrêtez de vous chamailler. Le grand livre d'histoire est bien assez lourd pour que vous soyez quatre à le soulever. Allez, apportez-le-moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais choisir la personnalité historique avec laquelle nous allons discuter. Et ce sera... Olympe de Gouges.
C'est qui ?
Elle vous expliquera ça mieux que moi. Écoutez, elle arrive.
Oula, oula. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici ?
Madame de Gouges, c'est un honneur. Je me suis permis de vous sortir du grand livre d'histoire pour que mes élèves puissent vous poser quelques questions.
Ah, eh bien, écoutez, ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer en public. Alors, avec joie. Qui commence ?
Moi, j'ai entendu dire que Olympe, c'était pas votre vrai prénom.
Ça l'est devenu avec le temps, mais il est vrai que lorsque je suis née, en 1748, mes parents m'ont appelée Marie. Marie Gouze. Avouez qu'Olympe de Gouges, ça en jette un peu plus, non ?
Moi aussi, je veux changer de nom comme Madame de Gouges.
Oui, Zoé Bouge-Bouge, ça t'irait bien.
Ça me va.
Et... vous êtes née où ?
À Montauban. Peut-être que vous connaissez. C'est une ville au sud de la France.
Au nord de Toulouse.
Mes parents étaient artisans bouchers. Mais beaucoup racontent que je serais en réalité la fille d'un grand marquis. Mais ça, ça restera un mystère.
Et ils étaient gentils, vos parents ?
Ah, vous savez, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour s'en sortir. Et même si on avait du mal à se comprendre, dans le fond, ils voulaient le meilleur pour moi. C'est sans doute pour ça qu'ils m'ont forcé à me marier.
Quoi ? C'est vos parents qui ont décidé qui vous alliez épouser ?
Eh oui. Ça se faisait beaucoup à l'époque. On choisissait qui serait le meilleur mari ou la meilleure femme pour ses enfants. Et c'est comme ça qu'en 1765, à 17 ans, je suis devenue l'épouse de Louis-Yves Aubry, un traiteur originaire de Montauban. Pour moi qui rêvais de liberté, le mariage était une véritable prison. D'autant plus qu'à l'époque... J'étais follement amoureuse d'un poète de ma région. Mais il faut voir le bon côté des choses. J'ai eu un fils merveilleux, Petit Pierre. Et puis, il faut dire que ce mariage n'a pas duré bien longtemps.
Pourquoi ?
Mon pauvre époux est tombé malade et est mort peu de temps après.
Et vous n'étiez pas trop triste ?
Un peu. Mais j'étais surtout de nouveau libre. Et c'est à ce moment que j'ai décidé de me faire appeler Olympe de Gouges.
Moi, mon surnom, c'est Magic Malik. Parce que je suis super fort en tour de magie. Et vous, Olympe de Gouges, c'est pourquoi ?
Ma mère s'appelait Anne Olympe, et j'ai donc décidé de garder son nom, Olympe. Et moi, je m'appelais Gouge, que j'ai transformé en De Gouge, pour apporter un peu de fantaisie et de noblesse à tout cela. Et ça m'a porté chance, car en 1767, je rencontre Jacques Biétrix de Rosières, un homme charmant.
Et vous tombez amoureux ?
Eh oui, éperdument amoureux, à tel point qu'il me demande de l'épouser. Mais pour moi, il était hors de question de me marier une nouvelle fois. Comme je le dis souvent, le mariage est le tombeau de la confiance et de l'amour. Jacques accepte ma décision et nous avons continué de nous aimer toute notre vie. Jacques était un haut fonctionnaire. En 1773, il est nommé à un poste important à Paris. Et il me propose de venir avec lui. Moi qui rêvais de la grande vie parisienne, je le suis sans hésiter. Si j'avais su qu'il fallait faire 12 jours de calèche pour y arriver, j'aurais peut-être changé d'avis.
12 jours ?
Oh là, trop la flemme. Bah, déjà, j'ai vu ça, j'en ai marre. À la calèche, c'est mort.
Oui, 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 oui. Sachant qu'il y a environ 640 km entre Paris et Montauban, à raison de 8 heures de calèche par jour pendant 12 jours, ça fait une moyenne de 6,67 km/h, ce qui est assez lent.
Wow ! Il est trop fort en calcul mental, le maître !
Et c'était comment la vie à Paris ?
J'ai adoré. Je côtoyais les salons mondains, je rencontrais des artistes, je discutais avec des philosophes, j'écoutais des personnalités comme Condorcet ou Benjamin Franklin. C'était merveilleux. J'avais le sentiment que tout était possible. En 1780, j'ai même monté une troupe de théâtre dans laquelle j'ai fait jouer mon fils. Et 4 ans plus tard, j'ai écrit ma première pièce intitulée Zamor et Mirza.
Ça parlait de quoi ?
De l'horreur de l'esclavage. Il faut savoir qu'à mon époque, l'exploitation des hommes et des femmes noires par les personnes blanches était monnaie courante. La plupart des gens trouvaient cela normal d'arracher ces personnes à leur famille, à leur pays, et de les vendre pour les forcer à travailler.
Mais c'est horrible.
Complètement. C'est pour cela que j'ai dénoncé cette barbarie à travers ma pièce. Malheureusement, elle a fait scandale.
Pourquoi ?
Parce que beaucoup d'esclavagistes qui s'enrichissaient avec ce commerce abominable étaient puissants et influents. Personne n'osait s'opposer à eux. L'affaire a été si loin qu'on a même menacé de me jeter en prison. Moi !
Oh, du coup, vous avez arrêté ?
Bien sûr que non ! Je ne me suis pas laissé marcher sur les pieds si facilement. Non mais oh ! Tout ce que je pensais, je le disais haut et fort, ou je l'écrivais. Par exemple, lorsque la misère n'a cessé de grandir en France, touchant les plus pauvres, je prenais leur défense. En 1788, j'ai rédigé ma première « Lettre au peuple », dans laquelle j'ai proposé à chaque citoyen de verser un peu d'argent, s'il le pouvait, afin de venir à bout de cette crise. Mais personne ne m'a écouté. La pauvreté a continué d'augmenter, et des émeutes ont éclaté.
C'est pour ça qu'il y a eu la Révolution ?
Oui, en partie. En 1789, le pays était à feu et à sang, et le peuple ne voulait plus se laisser commander. Devant ce soulèvement, en mars 1789, on a rédigé les cahiers de doléances. C'était des livres où les Français exprimaient leurs souhaits pour améliorer la situation du royaume. Puis, à Versailles, se sont tenus les États généraux. De grandes réunions où des hommes politiques ont tenté de trouver une solution à tout ce bazar. Moi, je ne voulais rien rater du spectacle. Alors, j'ai déménagé à Versailles. Mais le 14 juillet 1789...
Et feux d'artifice !
Si maintenant nous faisons un feu d'artifice, c'est pour célébrer l'événement dont Madame de Gouge va nous parler.
Un feu d'artifice ? Intéressant. Le 14 juillet 1789, donc, la prison de la Bastille est prise d'assaut par les sans-culottes.
Par les quoi ?
Les sans-culottes. Ce sont souvent des ouvriers, des artisans, des petits commerçants. On les appelait comme ça parce qu'ils ne portaient pas les pantalons courts qui s'arrêtaient au-dessus des genoux et qui étaient réservés à la noblesse et à la bourgeoisie. À l'époque, ces pantalons, on les appelait...
Des culottes !
C'est cela. La prise de la Bastille marque un tournant dans l'histoire de France. Le peuple est en colère. Et parmi le peuple, il y a les femmes. Alors, le 5 octobre 1789, les femmes du peuple décident de marcher vers Versailles pour faire leur demande directement au roi. Et j'en fais partie. Dès le lendemain, Louis XVI quitte le château. Et en le voyant s'incliner devant nous, je comprends que les femmes sont aussi fortes que les hommes.
Ça, c'est bien dit.
Alors, en 1791, 2 ans après la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je publie un écrit qui me rendra célèbre et que j'ai nommé « La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ». Parce que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes.
Ouais !
Mais vous n'avez pas eu des ennuis après ça ?
Oula, si. Les révolutionnaires, ce n'étaient pas tous des tendres. Et moi, je refusais l'usage de la violence. Je voulais être ferme, mais juste. Alors, quand le procès de Louis XVI a eu lieu, je l'ai défendu en disant que, certes, ça avait été un mauvais roi, mais pas un mauvais homme. Et je me suis opposée à sa peine de mort. Et ça, certains n'ont pas apprécié. Notamment Robespierre, l'un des plus importants chefs de la Révolution.
Ils ont fait quoi ?
Le 20 juillet 1793, ces vauriens m'ont jeté en prison.
C'est trop injuste !
J'ai eu le droit à un procès, mais pas un avocat. Du coup, comme j'avais critiqué Robespierre, comme je m'étais opposée au gouvernement révolutionnaire et surtout, comme ces rustres n'admettaient pas qu'une femme ait son mot à dire en politique, quick. J'ai été guillotinée le 3 novembre 1793. Mais je suis restée digne jusqu'au bout. Debout sur l'échafaud, je m'adresse au peuple et je dis « Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort !»«
Vous vengerez ma mort !»
Et c'est comme ça que ma vie s'achève.
Vous ne le savez pas, mais plus tard, un témoin racontera qu'il n'a jamais vu autant de courage et de beauté réunis à ce moment.
Et je le crois sur parole.
Alors c'est ça, avoir de la force ?
Exactement. La force, ce n'est pas dans les bras, mais dans la tête. La vraie force, c'est de s'élever contre les injustices, comme l'esclavage. C'est de soutenir des causes nobles, comme l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est de se battre pour des valeurs comme la liberté et la justice, peu importe ce qu'en pensent les autres. Ça, c'est être costaud. Les enfants, je dois vous laisser. Je retourne dans le grand livre d'histoire. Pour discuter avec Marie Curie, Rosa Parks et Frida Kahlo.
Oh la meuf! Votre stylo d'arbre de couchon.
Au revoir!
Olympe de Gouges!
Au revoir!
Olympe de Gouges! Oh.
Les enfants, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre historique. Cet épisode a été écrit par Thomas Le Petit Cor, interprété par Vincent Payet et Clara Ziegler, mise en musique par Léopold de Roy et Fanny Dupuis. À bientôt pour un nouvel épisode de Dans la classe de...
Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média. Retrouve toutes les informations sur maisondupodcast.fr.